Bonjour Arnaud Dorjan.
Bonjour.
On va parler précisément des élections européennes, du Brexit, mais d'abord un mot des élections en Israël. Vous êtes un fin connaisseur des questions internationales et des questions de sécurité. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou est donné vainqueur de ce scrutin et devrait pouvoir former une nouvelle coalition. Je rappelle qu'il a promis pendant sa campagne d'annexer les colonies israéliennes de Cisjordanie. Est-ce qu'on peut selon vous s'attendre à des manifestations d'hostilité, voire à des manifestations violentes après l'annonce de cette très probable victoire?
D'abord, cette victoire n'est pas véritablement une surprise. On verra l'ampleur qu'elle prend exactement. Mais le fait que ça soit autour de Benjamin Netanyahu que se forme la prochaine majorité en Israël n'est pas véritablement une surprise. Les annonces qu'il a pu faire pendant la campagne électorale, il faudra voir comment elles se matérialisent. Est-ce que c'était un peu de rhétorique avant la fin de la campagne ou quelque chose d'un projet très abouti? Ça, je pense que c'est un peu tôt pour le dire. Ce qui me frappe malgré tout, c'est que dans ce débat électoral en Israël, la question, l'aspect j'allais dire géopolitique et l'aspect processus de paix ou relations avec les Palestiniens a été assez relégué finalement comme un sujet presque annexe, montrant que cette dimension-là est au point mort, ce qui n'est pas forcément rassurant, mais malheureusement qui tient aussi à la situation du côté palestinien avec une absence très claire de leadership et d'unité côté palestinien qui, à mon avis, va plomber encore pendant quelques temps toute perspective de relance du processus de paix. Écoutez, on verra. C'est un climat pour l'instant électoral et immédiatement post-électoral, donc pas forcément le meilleur moment pour savoir ce qu'il en sera.
On se dirige vers un nouveau report du Brexit qui pourrait être de plusieurs mois. Cette fois, et pourtant, Theresa May n'a pas rempli les dernières conditions qui lui avaient été posées pour l'obtenir. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a de part et d'autre une trop grande peur, qu'on est un peu tétanisé par le scénario d'une sortie sans accord?
Moi, je reprends souvent la formule qu'a utilisée le négociateur Michel Barnier tout au long de cette discussion, c'est que c'est une négociation perdant-perdant, ce qui est assez inédit dans l'histoire européenne. Personne ne peut se féliciter et attendre de bonnes choses d'un Brexit sans accord. Cela étant dit, ce qui me frappe également, c'est toutefois le fait que depuis le début, ça va bien faire 3 ans que les Britanniques ont voté et qu'on dit qu'il faut respecter, évidemment, le choix souverain du peuple britannique. Moi, je note quand même que les Brexiteurs, ceux qui ont fait campagne et promu le Brexit, se sont défilés devant chaque prise de responsabilité. À part promouvoir le Brexit et voter non à toutes les solutions proposées, ils n'ont jamais assumé les responsabilités. Et ils se sont tous carapatés les uns après les autres. Donc c'est quand même très inquiétant. Aujourd'hui, on est dans cette situation extrêmement confuse. Je ne sais pas quelle a été la teneur des discussions et quelle sera la teneur des discussions aujourd'hui même à Bruxelles entre Theresa May et les leaders européens. Il semble inconcevable de ne pas accorder aujourd'hui un petit délai supplémentaire aux Britanniques. Est-ce que ce sera un petit délai ou un plus grand délai? La chose déterminante, c'est de savoir qu'est-ce que ce délai apporterait à la position britannique. Parce que ça fait 3 ans maintenant que le vote a été réalisé, ça fait 2 ans que le processus de sortie est enclenché, et à chaque fois les Britanniques nous demandent un peu plus de temps et de délai, mais sans apporter de solutions nouvelles. Or, il est clair qu'il ne peut pas y avoir d'autre accord de sortie que celui qui a déjà été négocié, et qui est déjà très favorable, entre guillemets, au Royaume-Uni. Donc, est-ce que Theresa May est en mesure d'apporter des garanties sur une adoption future probable de ce traité de sortie, c'est toute la question. J'ajoute, en tant que député européen,
les élections européennes.
Les élections européennes.
Mais que se passerait-il au fond s'il y a des élus britanniques au Parlement européen en mai prochain? Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces députés? Doivent moralement s'engager à s'abstenir sur tout? Enfin.
Mais l'honnêteté intellectuelle et politique devrait les conduire à ne pas prendre part à un certain nombre de débats et de votes.
Oui, mais ça ne peut être que moral, cet engagement.
Ça devrait déjà être le cas, si je peux me permettre, depuis 3 ans, depuis que le Brexit a été voté. Et d'ailleurs, un certain nombre de collègues britanniques l'ont fait, se sont mis en retrait d'un certain nombre de débats, puisque il y a une forme de malhonnêteté intellectuelle et politique à prendre part à des débats et à des votes qui vont engager une Union européenne que par ailleurs ils vont quitter quand il s'agit d'engagements financiers, quand il s'agit d'engagements législatifs. Je suis engagé, moi, très fortement, par exemple, dans des questions sur un fonds européen de défense auquel les Britanniques à la fois ne veulent pas participer, mais d'un autre côté aimeraient bien en être les bénéficiaires s'ils se montent. Et on va avoir des députés britanniques qui vont voter sur des textes qui engagent l'Union européenne et les contribuables européens pour les 5 à 7 prochaines années. Donc là, il y a quand même une incohérence et j'espère que cette incohérence pourra être levée.
Alors les élections européennes et votre campagne, la campagne des Républicains, l'immigration, les frontières, la civilisation européenne sont des thèmes qui sont très présents dans cette campagne. Vous êtes un proche de Michel Barnier, que vous avez cité, vous êtes également proche de Bruno Le Maire, d'Alain Juppé. Est-ce que vous assumez toutes les propositions du programme des Républicains pour les européennes, comme par exemple inscrire les racines judéo-chrétiennes de l'Europe, ainsi que l'héritage gréco-romain dans les traités européens?
Oui, ça, je pense que ça a été une erreur originelle quand un certain nombre de traités. Oui, je pense que c'est quelque chose auquel une majorité d'Européens aurait été sensible. C'est d'ailleurs quelque chose qui n'est pas forcément compris sur les autres continents. On est dans une période d'affirmation de puissance, de continent, et nous-mêmes parfois semblons vaciller sur ce que nous sommes et nos racines. Moi, je pense que c'est pas un bon moyen. Il s'agit pas d'être expansionniste. Il s'agit pas d'être exclusif, il s'agit simplement de rappeler de là d'où nous venons et ce qui fait la richesse aujourd'hui de la civilisation européenne et ce qui fait que d'ailleurs l'Europe est attractive pour beaucoup de peuples et d'autres civilisations. Je vous avais rappelé mes origines politiques que je ne renie absolument pas. Je pense que nous sommes à un moment où il y a un besoin nouveau qui s'exprime au sein des populations européennes. Je pense que les problématiques auxquelles nous devons faire face ne sont plus exactement les mêmes que celles d'il y a 10 ans et encore moins de celles des pères fondateurs. On m'oppose souvent en disant « Oh là là, est-ce que vous trouvez que les pères fondateurs se seraient retrouvés dans le programme LR, qu'on trouve parfois trop protecteur ou trop accentué sur la protection ?» Moi, je pense surtout que les pères fondateurs, ils avaient des défis qui sont plus du tout ceux auxquels nous devons faire face aujourd'hui. Et je crois que le besoin de protection, qui est un besoin aussi de protection, pas simplement de protection physique par rapport aux problèmes sécuritaires ou migratoires ou frontaliers, c'est aussi un problème de protection économique, c'est un problème d'affirmation aussi. La protection, elle peut être offensive, si je peux me permettre. C'est-à-dire que la naïveté dont nous avons fait preuve dans les échanges internationaux, c'est quelque chose sur lequel il faut revenir, parce que nous sommes la risée de tout le monde. Les Chinois, les Américains, les Brésiliens, aujourd'hui, ont des politiques commerciales extrêmement agressives,
sur le droit offensives.
Nous avons, nous, des dispositions qui datent d'il y a quelques décennies et qui ne sont plus adaptées aux réalités du monde d'aujourd'hui.
Très rapidement, Arnaud Dangean, vous dites, nous ne pensons pas que le supranational ou le post-national soit la solution à tous les problèmes. Loin de là, c'est pourquoi les actions européennes doivent se concentrer sur les domaines où leur plus-value s'impose. Est-ce que ça veut dire finalement reprendre la souveraineté nationale sur des sujets qui, jusqu'à maintenant, avaient été délégués à l'Europe ?
Je suis pas certain qu'il y ait tant de sujets que ça qui aient été délégués totalement à l'Europe. Je pense que ça, c'est un peu un grand mythe. Il y a des domaines, la politique commerciale, la politique agricole, où effectivement, il y a eu des délégations consenties de souveraineté partagée. Je ne crois pas qu'il soit utile de revenir. Moi, je suis pas du tout pour la renationalisation de la politique agricole commune, par exemple. Je pense que ça serait une catastrophe. Donc, je ne suis pas pour la renationalisation de certaines politiques communautaires. Je suis, en revanche, pour le strict respect des traités qui prévoient bien que l'orientation politique de l'Union européenne, les grandes orientations politiques, sont fixées par le Conseil des États membres. Le Conseil des États membres. Et qu'on respecte la volonté politique des États membres et qu'on respecte l'identité des nations. Je pense que sur un certain nombre de sujets récemment, ça n'a pas été le cas. Je pense en particulier sur la politique migratoire. Nous disons, sans agressivité du tout, que la politique migratoire, savoir qui on accueille dans sa société, sur son sol, c'est une prérogative nationale. Nous n'avons pas, nous, Français, et encore moins Bruxelles, au titre du supranational, à imposer à tel ou tel pays une politique migratoire, par exemple.
Merci Arnaud Dangean.
Merci à
vous.
Bonne
journée.
Merci.